19h, temps universel.
Washington, la voix de l'Amérique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
Retrouvez-nous aussi sur Internet, Facebook et sur votre portable.
Dans moins de 5 minutes, l'actualité du sport et de la Coupe du Monde, notamment au Brésil. Ce sera avec Bagassi Koura dans Sportrama. Mais tout de suite, un bulletin d'information. Et voilà, je vous propose d'aller tout droit au Brésil, retrouver notre envoyé spécial, Nicolas Pinault, qui suit le match Nigeria-Iran. Nicolas, bonjour.
Bonjour.
Vous suivez le match Nigeria-Iran, dites-nous ce qui se passe à l'entame.
Eh oui, coup d'envoi donné il y a quelques secondes maintenant, Jean-Roger, à Salvador, entre le Nigeria, les Super Eagles, champions d'Afrique 2013, et l'Iran. Match piège ou match facile, nous allons le savoir évidemment d'ici 90 minutes. Victoire importante pour les Nigérians dans ce groupe F, après la victoire hier 2-1 de l'Argentine. Pour s'enlever un peu de pression, les Nigérians auraient la bonne idée de gagner ce premier match, Jean-Roger.
Merci à vous, Nicolas Pinault. On vous retrouve en plus grand dans l'édition de Sportrama tout à l'heure avec Bagassi Koura. On continue ce bulletin d'information avec la sécurité renforcée au Kenya après l'attaque d'hier qui a fait au moins 49 morts, dont au moins un policier et de nombreux blessés dans la ville côtière de Mpeketoni. Les islamistes du groupe somalien Al-Shabaab ont revendiqué l'attaque. Les précisions, Michel Joseph.
Des hommes armés venus à bord de 20 véhicules ont attaqué hier nuit Mpeketoni, près de l'archipel touristique de Lamu, alors que les habitants suivaient la retransmission de la Coupe du Monde. Les autorités kényanes précisent que les assaillants visaient uniquement les hommes. Ils ont brûlé une vingtaine de véhicules et des maisons. Le président de la Croix-Rouge kényane, Abbas Goulet, fait état de deux banques, un commissariat de police et un bâtiment public qui ont été incendiés. Un témoin a confié que l'assaut a duré plusieurs heures et que la police a mis du temps à répondre. Le ministre kényan de l'Intérieur, Joseph Lenku, affirme que les forces de sécurité sont à la poursuite des assaillants qui se sont réfugiés dans la forêt de Boni. Dans un communiqué, le groupe somalien Al-Shabaab a revendiqué l'attaque, disant que c'est en réponse à la répression brutale du gouvernement kényan contre les musulmans. Les islamistes somaliens ont appelé les touristes à éviter le Kenya, devenu selon eux une zone de guerre.
En République centrafricaine, le processus de réconciliation entre Antibalaka et Exeleka a fait quelques pas en avant. À Bangui, les leaders des deux mouvements armés se sont retrouvés autour d'une table pour parler de la paix. C'était sur l'initiative de l'ONG Paix, Réconciliation, Tolérance, le Pareto. Le point avec Idriss Fall.
C'est la deuxième fois en moins d'une semaine que les leaders des deux mouvements armés se retrouvent pour parler de la paix. Ce lundi, Abdoulaye Hissène Ramadan, coordinateur politique des ex-Seleka, Mustapha Saboun, secrétaire général, et Eric Massi étaient assis face à face avec Patrice Edouard Ngaïsona, coordinateur des Antibalaka, Émotion Brice Namsio, porte-parole, et Alfred Legrand Gaïa, le conseiller politique. Benny Diogo Kouyaté de l'ONG Pareto a organisé cette rencontre inédite.
Le moment est très proche pour qu'ils se prononcent. Ils ont à parler entre eux et au peuple centrafricain qui souffre aujourd'hui de leur exaction de part et d'autre. La chose la plus essentielle et plus importante, c'est la reconnaissance de chaque partie de son tort fait à cette paisible population. Et la volonté d'aller au dialogue, mais surtout de demander pardon entre eux et demander pardon au peuple centrafricain victime.
Après plus de 3 heures d'échange, les leaders des deux groupes armés se sont fait des accolades et ont échangé des numéros de téléphone. Ils ont décidé de mettre en place prochainement un comité mixte de réflexion et œuvrer pour la réconciliation dans le pays.
Hors du continent, les États-Unis n'écartent pas l'éventualité d'une coopération avec l'Iran pour contrer les militants sunnites en Irak. C'est ce qu'a laissé entendre le secrétaire d'État John Kerry ce lundi. Washington et Téhéran n'entretiennent pas de relations diplomatiques depuis 30 ans. Et puis, le président ukrainien Petro Poroshenko a annoncé pour cette semaine un plan de paix détaillé pour la région de l'Est. M. Poroshenko a indiqué que la phase initiale serait un cessez-le-feu avec les séparatistes pro-russes. Également envisagé un amendement constitutionnel pour décentraliser le pouvoir. C'est l'une des principales revendication des militants anti-gouvernementaux dans l'est de l'Ukraine. Par ailleurs, l'entreprise russe Gazprom a annoncé aujourd'hui l'arrêt de ses livraisons de gaz naturel à l'Ukraine pour défaut de paiement. Ne quittez pas, gardez vos sièges. On va au Mondial. C'est avec Sportrama, c'est Bagassi Koura.
Bonsoir à tous et bienvenue à Sourama. Ravi de vous retrouver donc dans ce numéro qui sera entièrement consacré à la Coupe du Monde. Et vous pouvez nous joindre au 202-619-3140, bien sûr le 001 avant. Donc 001-202-619-3140. Avec nous ce soir, vous aurez tous nos consultants. D'abord Nicolas Pino au Brésil, à Manaus au Brésil. Bonsoir Nicolas. Voilà, coup d'envoi, il y a 5 minutes entre le Nigeria et l'Iran et le score est de 0-0.
Et oui, après bientôt 8 minutes de jeu ici à Salvador, au Brésil, les Super Eagles, ce champion d'Afrique Bagassi, qui affronte cette équipe iranienne qui est un petit peu méconnue et qui fait un petit peu figure de petit poussé dans ce groupe F. Mais attention, attention, Bagassi au match piège. En tout cas, il sera important pour les Nigérians de prendre les 3 points évidemment, pour pouvoir espérer poursuivre cette compétition.
Oui, il faut dire qu'il y a eu ce premier match synonyme d'une large victoire pour l'Allemagne face au Portugal. Une grosse surprise, Nicolas.
Eh oui, 4-0, la Mannschaft avait prévenu, notamment son sélectionneur Joachim Löw, qui l'avait dit hier en conférence de presse. Hein, il avait dit « Mon équipe peut aller loin, on avait pu prendre cela pour de la prétention ». Non, 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 le coach allemand était sûr des forces de ses joueurs et notamment l'inévitable Müller Bagassi, puisque Thomas Müller a fait exploser la défense portugaise, un triplé, et les Allemands qui se sont imposés 4-0.
Et Cristiano Ronaldo, qui était très attendu, n'a pas pu marquer aujourd'hui.
Et tout à fait, Bagassi, moi je me souviens quand on avait fait Sporama avant que je parte au Brésil, moi j'étais réservé hein, sur cette équipe portugaise, on en attend toujours beaucoup. Cristiano Ronaldo est un excellent joueur, peut-être le meilleur joueur du monde, ça c'est sûr. Mais collectivement, les Portugais n'ont rien gagné, évidemment, sur cette génération dorée. Et ils le prouvent, là encore. Alors, attention, Bagassi, hein, les Portugais ne sont pas encore éliminés. Il restera un match. Et le but, ah, le but, évidemment. Et non, le but qui est refusé pour les Nigérians. Une position de hors-jeu, les Nigérians qui avaient cru marquer. Mais l'arbitre, Bagassi, je reviens sur le direct, l'arbitre qui signale une position de hors-jeu. Je disais donc, les Portugais qui ne sont pas éliminés, il faudra suivre le match face aux États-Unis et surtout face au Ghana.
Et justement, Nicolas, on va rester sur ce match entre le Portugal et l'Allemagne qui s'est achevé donc par cette large victoire allemande 4-0. Et on écoute l'appréciation de Fabrice Bassosila. Il est à Kampala, en Ouganda.
Je pense que si il faudrait peut-être parier à l'entraîneur de Portugal, il faudrait qu'il mise un peu beaucoup plus à le fait de ne pas donner seulement l'espoir à une seule personne ou à deux ou alors à l'équipe type, mais il fallait qu'il travaille avec tout le monde. Ronaldo, il ne fallait pas qu'on le remarque trop, puisque d'abord il a été remarqué depuis avant le match, il a été remarqué depuis avant la Coupe du Monde, donc tout le monde se dirait il ne faudrait pas qu'il se fasse remarquer, il ne faudrait pas qu'on parle de Ronaldo, il ne faudrait pas, et voilà que la mission est atteinte.
Voilà que la mission est atteinte, Fabrice Bassosila à Kampala en Ouganda. Et il faut dire que donc, ce soir, les deux anglophones du continent jouent, pas seulement le Nigeria, mais il y a aussi le Ghana qui affronte les États-Unis d'Afrique. Et sur ces deux rencontres, on écoute Valdo Simoyamba, il est journaliste sportif à TV50 à Kinshasa, c'est en RDC.
On attend beaucoup du Nigeria qui rencontre l'Iran. L'Iran est peu connu, il n'a que 4 participations à la Coupe du Monde, il n'est vraiment pas assez connu, mais attention, cette Coupe du Monde ne se base pas sur les équipes connues. C'est pratiquement un grand défi également pour ces Super Eagles qui seront entre autres conduits par John Obi Mikel, qui n'est vraiment pas du tout assez convaincant encore en équipe nationale.
Et puis on n'oublie pas hein, le Ghana qui retrouve son adversaire, on peut dire hein, traditionnel, les États-Unis.
Avec ses goûts d'inachevé de la dernière Coupe du Monde, rappelez-vous, les Ghanais, ils ont joué les coups de la malchance face à l'Uruguay avec cette main du diable de Suarez qui leur a empêché bien sûr d'accéder en demi-finale. Mais en face, il y a également la sensation en mettant en dérive l'équipe espagnole. Rappelez-vous, c'était pratiquement une grosse frayeur côté espagnol. Côté ghanéen, ça reste également Jan Asamoah qui doit être de grands jours parce que c'est lui le tueur à froid, c'est lui le capitaine, c'est lui, c'est sur lui qui repose la responsabilité, quoi qu'il a été malchanceux avec ses pénalties ratées face à l'équipe, bien sûr, uruguayenne, le mondial dernier.
Voilà, c'était Valdo Simoyamba, notre confrère de TV50 à Kinshasa. Nicolas, à Manaus, au Brésil, vous l'avez entendu, le Ghana affronte ce soir les États-Unis. Comment vous voyez cette rencontre ?
Léger avantage, évidemment, c'est l'Afrique qui parle, Bagassi, léger avantage aux Black Stars du Ghana, habitué des compétitions internationales et surtout un double vainqueur des deux dernières confrontations, 2006 et 2000, le même score, 2-1 pour les Black Stars. Donc léger avantage à cette équipe ghanéenne. Cette équipe ghanéenne qui se connaît bien, Bagassi, les joueurs ont l'habitude de jouer ensemble, et notamment les frères Ayou ou encore Gian. Donc léger avantage, même si, il faut se rappeler qu'en match de préparation, les Américains du sélectionneur Jürgen Klinsmann l'avaient emporté face aux Nigérians. Ça a été en Floride et c'était un match de préparation. On n'en tiendra donc pas trop rigueur.
Et comme on l'a vu tout à l'heure, il faut se méfier du coaching ghanéen, allemand. Il faut se méfier du coaching allemand donc avec Jürgen Klinsmann qui dirige cette équipe américaine. Et Nicolas, vous restez avec nous. On me signale que nous avons Jules Valentin Gouet de Libreville qui est en ligne. Bonsoir Jules.
Bonsoir, merci Courant. Bonsoir à tous.
Voilà, et vous avez suivi Portugal qui a perdu largement face à l'Allemagne. Qu'est-ce qui n'a pas marché?
Oui, il y a disons que beaucoup de choses qu'il faut relever. D'abord, sur le plan tactique, les Allemands ont réussi à contrer le jeu portugais en postant deux joueurs très défensifs au milieu de terrain qui avaient pour but d'empêcher les créateurs du milieu de donner des balles en attaque, des ballons propres. En même temps, Cristiano Ronaldo était marqué par Boateng de très près. Et finalement, il y a eu aussi des circonstances de jeu, notamment aussi des décisions arbitrales à ses limites qui ont coulé les Portugais dès le début du match.
Alors, donc, on a beaucoup parlé de Cristiano Ronaldo et apparemment, les Allemands ont pu trouver une solution pour son cas.
Oui, bien sûr, Cristiano Ronaldo qui revient de blessure d'abord, qui est légèrement diminué, mais qui a aussi eu un garde de corps qui est attaché à ses basques, un grand gabarit comme Boateng qui le dominait physiquement pratiquement, ce qui est rare, et finalement n'a pas pu s'exprimer. Au Real, il est très mieux entouré peut-être que dans l'équipe portugaise.
Allez, vous suivez Sporama sur La Voix de l'Amérique au micro Bagassi Koura. On retrouve au pays de la Samba Nicolas Pinot. Nicolas, vous étiez là quand la Côte d'Ivoire a battu le Japon 2-1 à Recife, je crois.
Eh oui, tout à fait. Alors, Bagassi, il faut quand même le dire, les Ivoiriens qui s'en sortent bien, car sur la première mi-temps, l'animation offensive n'était assez brouillonne et surtout la défense qui a véritablement été très passive, notamment à la 16e minute, le but de Honda qui a crucifié évidemment les éléphants. Et puis évidemment, Didier Drogba est arrivé, Bagassi, ça a tout changé. Alors, ouais. La star de Galatasaray n'a pas marqué, mais il a pesé de son aura sur la défense et il a galvanisé ses coéquipiers. Wilfried puis Germinho ont permis à la Côte d'Ivoire de l'emporter. Mais je dirais, et peut-être que Jules Valentin Gouet ne me contredira pas, que c'est un résultat en trompe-l'œil.
Oui. Alors, Jules, vous avez entendu la question?
Oui. Alors, répétez, s'il vous plaît.
Oui. Nicolas demandait si ce résultat de la Côte d'Ivoire était un résultat en trompe-l'œil.
Oui, disons que on peut le supposer et dans la mesure où c'est en fait l'arrivée providentielle de Didier Drogba qui a changé le match totalement, qui a fait que l'équipe se retrouve, trouve ses repères. Mais on a quand même du mal à se rendre compte que avec les individualités que les éléphants ont, ils peinent à démarrer réellement les rencontres à un rythme élevé et le milieu de terrain n'est pas suffisamment créateur. Bon, donc on espère que ces petits défauts seront arrangés et surtout que l'entraîneur trouvera le moyen de faire jouer Didier Drogba un peu plus longtemps. Il est indispensable pour l'équilibre de l'équipe.
Alors, Jules, vous vous rappelez d'un certain Abdoulaye Traoré Ben Badi?
Bien sûr. Ouais. Abdoulaye Traoré qui pourrait ne pas penser à lui, le guerre-mouleur africain.
Oui. Alors, on l'a retrouvé justement, on lui a demandé qu'est-ce qu'il pensait de Didier Drogba, mais aussi de cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et le Japon.
Je crois que c'était une très bonne rencontre et puis le Japon a donné une bonne réplique à la Côte d'Ivoire parce que vous savez que au stade de la compétition, c'est la Coupe du Monde. Hein. Tactiquement, physiquement, mentalement, il faut être prêt. D'entrée de jeu, le Japon a imposé son jeu et puis qui a raté beaucoup d'occasions. Par la suite, la Côte d'Ivoire s'est ressaisie, elle s'est sentie beaucoup acculée. Et puis aussi, il y a eu l'entrée de Didier Drogba qui a motivé, qui a galvanisé ses coéquipiers et qui nous a permis de marquer nos deux buts. Dieu merci, ça s'est bien passé. Donc je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire, malgré sa victoire, a encore des défaillances au niveau du jeu collectif. Didier, c'est un joueur qui ne sait pas tricher, qui a beaucoup d'expérience. Donc le fait déjà d'être sur le banc, on s'est dit que vraiment il allait apporter un plus. Et puis dès qu'il est rentré, on a vu que tout le monde s'est mis à son service, il a apporté un plus. Je crois que c'est ça le rôle de Didier. Je crois qu'à cet âge, il est devenu un joker de luxe qui réagit positivement sur l'équipe. Donc pour moi, je crois que c'est ça le rôle d'un leader. Et Didier reste un leader pour cette équipe.
Pour le prochain match, est-ce qu'il devrait rentrer un peu plus tôt?
Non, je crois qu'il faut qu'il reste dans son rôle de joker. Ses jeunes frères vont faire tout le travail et puis quand il va rentrer, il va apporter son expérience.
Alors Jules, vous l'avez entendu, hein, Abdoulaye Traoré dit Ben Badi, il pense que Didier doit rester toujours sur le banc et entrer en tant que joker.
Oui, c'est une option, c'est celle que le Cameroun avait trouvée en 90 avec Roger Milla. Ouais. Mais rester sur le banc, c'est bien beau, mais il faut savoir que Didier Drogba, en fin de rencontre, n'était nullement éprouvé physiquement. Donc, il peut rentrer beaucoup plus tôt encore. Si on s'en sert comme joker de luxe, il peut rentrer beaucoup plus tôt. Et c'est ce que Nepomniachtchi avait fait avec Milla. Par la suite, Milla faisait carrément au moins la deuxième étape.
Alors, on signale aussi que nous avons pu retrouver Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin. Bonsoir, Élisée.
Bonsoir à Bagassi Koura, à Nicolas Pinot et à Jules Valentin Ngwe.
Voilà, et le Nigeria qui joue contre l'Iran en ce moment, 0-0. Quelle est votre appréciation du niveau de la rencontre?
Actuellement, Bagassi, il faut le dire, les Nigériens sont en train de maîtriser le sujet. Seul défaut pour le moment, l'attaque n'arrive pas à créer. Seul Munike, l'attaquant de Fenerbahçe, qui s'est procuré une occasion sur ce centre en retrait, le Nigeria pouvait marquer le premier but, mais c'était sans compter sur la maladresse de ces attaquants qui sont passés complètement à côté du cadre. Sinon, jusqu'au jour 17 minutes ici, les Nigériens maîtrisent le ballon avec des petites passes sans pouvoir inquiéter justement la défense iranienne.
Merci à Élisée Mpatine à Boïcon au Bénin. Nicolas, à Manaus, on revient à vous. Le Cameroun joue son deuxième match demain contre la Croatie. Et probablement sans Samuel Eto'o, ça montre un peu une certaine difficulté pour cette équipe camerounaise. Parce que la Croatie, on l'a vu lors du match d'ouverture, c'est une grande équipe. Hein?
Oui, et on va peut-être poser la question. On ne va pas faire la théorie du complot, Bagassi, mais est-ce que c'est vraiment une blessure? On a connu tous les problèmes de prime, on a une blessure officielle au genou gauche de Samuel Eto'o. Est-ce que c'est une vraie blessure? Il n'est pas réapparu depuis vendredi, depuis évidemment le lendemain de la défaite. Est-ce que ça ne traduit pas peut-être des dissensions plus grandes dans cette équipe? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que si défaite il y a contre la Croatie, le groupe va encore une fois exploser et on va encore avoir des mélodrames du côté de Yaoundé, comme on en a eu trop souvent l'occasion. Et Jules Valentin Ngwe va confirmer, depuis 2002, c'était une victoire contre l'Arabie Saoudite. Le Cameroun n'a gagné aucun match en Coupe du Monde. Alors le Cameroun, qui est le représentant africain avec le plus grand nombre de participations à la Coupe du Monde, mais depuis 2002, les Lions Indomptables, Bagassi, ne rugissent pas trop.
Alors Jules, voyant ce groupe, la Croatie, le Brésil, le Mexique, que le Cameroun n'est pas parvenu à battre, est-ce qu'il y a encore une chance de victoire pour les Lions? Pour être réaliste?
Oui, bien sûr. Les équipes, disons que c'est un groupe d'abord très relevé et très, très difficile.
Oui.
Et dans lequel ça se joue sur les détails. Bon, donc, finalement, contre la Croatie, c'est un match capital. Parce qu'on a vu même des poules où on a fini à 3. Disons qu'une équipe avait battu toutes les autres et toutes les trois autres avaient 3 points. Et donc finalement, on a fini par choisir celle qui avait le meilleur goal différence. Donc tout cela, tous ces scénarios ne sont pas exclus. Et les, si le Cameroun réussit à vous accrocher une victoire contre la Croatie et que la Croatie batte le Mexique, vous voyez déjà que le jeu est réalisable. Mais en ce qui concerne une absence éventuelle de Samuel Eto'o, je crois que pour cela, il a un remplaçant direct qui peut très bien jouer le rôle à Aboubakar Vincent qui est en forme actuellement.
D'accord. Alors, on parlait du Cameroun, on va passer à la Côte d'Ivoire avec vous, Élisée. Vous avez vu, on a beaucoup parlé de Yaya Touré. Comment vous appréciez sa prestation lors de ce dernier match dimanche contre le Japon?
Yaya Touré a vraiment montré ses qualités, hein, puisque là, aujourd'hui, c'est lui le patron de cette équipe des éléphants. Il a dû se batailler très fort. D'ailleurs, à la fin de la rencontre, il a livré ses impressions. Pour lui, il devrait jouer davantage pour pouvoir mener très loin cette équipe des éléphants. On peut le dire aujourd'hui, après cette victoire, la Côte d'Ivoire s'est bien positionnée pour la suite de la compétition. Maintenant, ce qu'il reste, c'est de tout faire pour pouvoir améliorer ce jeu-là. C'est vrai, les milieux n'écrivent pas énormément pour pouvoir permettre aux attaquants parce qu'il y a Salomon Kalou, Yao Kouassi, Jebio, ces deux joueurs qui peuvent éliminer un contre un. Et là, ces milieux doivent beaucoup bouger, doivent beaucoup créer pour permettre à ces deux ailiers, ou faux ailiers, de créer le surplus pour pouvoir marquer beaucoup de buts par car pour la suite, ça va se jouer comme ça.
Allez, vous suivez Sporama sur la Voix de l'Amérique. Nicolas, on revient à vous à Manaus au Brésil. Hein, ce qui est arrivé au Portugal ce soir, c'est à peu près la même chose est arrivée à l'Espagne, hein, qui était l'une des favorites de ce tournoi. L'Espagne qui a été laminée 5-1 par les Pays-Bas.
Et oui, les deux favoris. Alors j'avais envie de dire que moi j'étais plutôt réservé sur l'Espagne avant la compétition. Pour le moment j'ai raison, mais il faut quand même le dire, si l'Espagne n'est pas éliminée, l'Espagne devrait quand même logiquement arriver en huitième de finale. Mais c'est vrai que ces Espagnols ont été surpris, hein, évidemment, par les Pays-Bas. Et en tout cas, on peut d'ores et déjà dire, avant les dernières rencontres, que vraiment les deux favoris de cette compétition sont l'Allemagne pour la qualité du jeu et les Pays-Bas avec un tour en dessous, il faut quand même le dire, le Brésil qui avait été accroché par la Croatie et malgré la victoire 3-1, le résultat, en tout cas le match, la finition du mini-match était beaucoup plus serré. Donc pour le moment, les deux favoris qui se dégagent, ce sont les Allemands et les Hollandais, deux équipes européennes, ce n'est pas vraiment une surprise.
Et puis deux autres équipes européennes, hein, c'est l'Italie et l'Angleterre. Donc l'Italie avec Balotelli qui n'a pas manqué de marquer son but. Jules, un mot sur cette rencontre Italie-Angleterre où l'Italie a battu l'Angleterre 2-1.
Surtout à l'européenne réellement et où toutes les deux équipes se sont données à fond avec une équipe anglaise qui a beaucoup de jeunes très brillants comme Sturridge et Houellebecq.
Yes. Oui.
Mais il faut dire également que l'Italie joue presque à domicile. N'oubliez pas que la population brésilienne est en partie constituée de migrants italiens. Donc, l'Italie a un petit avantage sur les autres équipes qui sont sur place. Ce qui peut jouer, par contre, dans la motivation des joueurs et sur le résultat final.
Oui, Élisée, pour revenir à vous, la France qui a eu la tâche facile 3-0 face au Honduras. Élisée,
c'est pas pour cette équipe française plus, puisque rappelons un Bagassi, vous rappelez depuis 1998, la France n'a plus gagné un seul match pour sa première en Coupe du Monde en 2002, battu par le Sénégal, en 2006 accroché par la Suisse, battu en 2010 par l'Uruguay. C'est déjà un très bon début pour cette jeune équipe française. Et là, déjà, il y a la motivation en attendant d'affronter la Suisse. Mais il reste beaucoup à faire puisqu'il y a quelques déchets au niveau du milieu de terrain et aussi au niveau de la défense
si cette équipe veut aller très loin, Didier Deschamps doit revoir encore quelques individualités et parler surtout à ces jeunes milieux de terrain qui sont Paul Pogba ou encore Blaise Matuidi, qui ces deux joueurs doivent revoir leur positionnement sur le terrain. Mais la France s'est bien comportée puisque en face il y a le Honduras qui n'est pas une très grande formation en matière de football sur cette planète Terre, mais déjà remporté son premier match, c'est très important.
Alors Nicolas, où en est-on avec ce match Nigeria-Iran?
25 minutes de jeu, Bagassi et Élisée le souligne, on assiste un petit peu à un attaque-défense. Hein. Grosse domination territoriale et du ballon des Nigérians, mais pour le moment, domination stérile, évidemment, les Nigérians qui n'arrivent pas à trouver la faille. On l'a dit tout à l'heure, un but a été refusé pour une position de hors-jeu, mais en tout cas, les Nigérians qui dominent largement dans cette rencontre. Après 25 minutes de jeu, 0-0 entre le Nigeria et l'Iran.
Merci à Nicolas Pineau. Et Jules, pour revenir à vous, hein, l'équipe de France dont on parlait tout à l'heure, avec un certain Benzema, Karim Benzema, qui joue pleinement son rôle de leader.
Benzema qui a décidé enfin de remplir ce rôle de leader qu'il aurait dû avoir. Il ne faut pas oublier que c'est lui qu'on appelait le nouveau Zizou. Alors, il a fait un bon match, mais il faudrait attendre peut-être d'avoir une opposition beaucoup plus sérieuse pour juger du rendement des joueurs français.
Oui, d'accord. Vous suivez Sporama sur la Voix de l'Amérique au micro Bagassi Koura avec en ligne nos consultants et notre envoyé spécial Nicolas Pineau à Manaus au Brésil. En ce moment, nous suivons la rencontre Nigeria-Iran. Toujours 0-0 entre les deux équipes. Parlons maintenant du prochain match des éléphants qui vont croiser jeudi. Les éléphants qui jouent jeudi contre donc la Colombie, qui est quand même l'équipe favorite de ce groupe. Hein. Nicolas, comment se présente cette rencontre Côte d'Ivoire-Colombie?
Pour le moment, c'est la finale du groupe Bagassi, hein, puisque les Colombiens se sont facilement imposés 3-0 contre les Grecs et ils sont pour le moment leaders de ce groupe C. Ils affronteront donc la Côte d'Ivoire. La Colombie, c'est quand même un adversaire de plus gros calibre que les Japonais. Et donc, si la défense ivoirienne continue à somnoler comme elle l'a fait lors de la première mi-temps, l'addition pourrait être beaucoup plus salée. Et puis, comme nous disait Jules Valentin Goué, le mystère, est-ce que Sabri Lamouchi va titulariser l'entrée Didier Drogba ou va-t-il le conserver sur le banc? Ça va être un atout pour les Ivoiriens si Didier Drogba est aligné d'entrée. Et puis, on parlera évidemment de Gervinho, hein, l'homme en forme de cette équipe ivoirienne cette saison. Une grande saison.
Ah, on va essayer de récupérer Nicolas. Et Jules, on revient à vous. Hein, cette rencontre Colombie-Côte d'Ivoire, vous avez eu la chance de voir les deux équipes jouer. Et comment donc vous voyez cette rencontre de jeudi?
Je dirais franchement que j'ai été impressionné par l'équipe de Colombie à côté de celle du Costa Rica, par la puissance des joueurs, leur technique, la rapidité de jeu. Et donc, c'est une équipe qui est très dangereuse et, ma foi, la Côte d'Ivoire aura besoin de toutes ses ressources pour tenir le rythme. Mais elle a un avantage, la Côte d'Ivoire, c'est qu'elle a un bloc défensif très hermétique qui pourra peut-être lui permettre de jouer le contre et de surprendre les défenseurs colombiens dans le dos. On a vu qu'il y avait une certaine fébrilité au niveau de l'axe central défensif colombien.
Alors, Élisée, pour revenir à vous et parler aussi du Ghana et de son prochain match, hein, ça va être contre l'Allemagne qu'on a vu ce soir. Comment vous voyez cette rencontre entre le Ghana et l'Allemagne? Ce sera samedi.
Ouais, ce sera une rencontre qui va peut-être déterminer la suite de la compétition pour les Black Stars. Puisque d'abord, cette équipe va jouer cet après-midi et le résultat en dépendra. Mais vu ce que l'Allemagne a présenté, cet après-midi, eh bien, les Ghanéens doivent hausser le niveau de leur jeu pour pouvoir bien sûr contrer cette équipe allemande. Mais rien n'est impossible puisque en match de préparation, nous avons vu les Camerounais tenus en échec ces Ghanéens. C'est vrai, ce n'est pas le même match, c'est un match de préparation. Cette fois, c'est la compétition proprement dite. Maintenant, les Ghanéens doivent aussi jouer de par leur expérience puisqu'ils ont beaucoup de joueurs expérimentés. Eh bien, ce sera très, très difficile pour les Ghanéens, mais aussi difficile pour les Allemands parce que face à une équipe africaine, ce n'est pas toujours évident de gagner.
Voilà, merci à Élisée Mpatine. Nicolas, vous avez le dernier mot. Où en est-on avec cette rencontre?
Et 30 minutes de jeu, évidemment, le Nigeria qui pousse, mais qui ne parvient pas pour le moment à marquer face à la défense iranienne, toujours 0-0 entre les deux équipes, Bagassi.
Voilà, merci, c'est tout pour Sporama. C'était Bagassi Koura au micro avec Nicolas Pino à Manaus au Brésil, Élisée Patine à Boïcon au Bénin et Jules Valentin Ngwe, notre consultant à Libreville au Gabon. Rendez-vous lundi prochain.